Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'histoire du fameux Night Stalker, un tueur en série qui a terrorisé les nuits des habitants de Los Angeles et de San Francisco durant des mois. Il pénétrait dans des maisons par effraction, puis il tuait, cambriolait, violait. Il laissait également des symboles sataniques sur les murs. Fan d'occultisme et de heavy metal, il se prenait pour le disciple de Satan. Voici son histoire. Le 28 juin 1984, au soir, un homme habillé tout en noir s'introduit dans l'appartement de Jenny Vinco, une vieille dame de 79 ans habitant dans la banlieue de Los Angeles. Une chaleur étouffante écrase la ville depuis plusieurs jours. L'homme a trouvé une fenêtre entrouverte. Il pénètre facilement dans l'appartement. Le lendemain, le fils de la vieille dame, venant prendre de ses nouvelles, découvre le corps de sa mère inanimée. Elle a été décapitée et violentée. La police est choquée par cette violence et ce manque d'humanité dont a fait preuve le meurtrier. Pourtant, sans indice et sans témoin, elle n'arrive pas à mettre la main sur l'assassin. L'horreur ne fait que commencer. Los Angeles, un soir de mars 1985. Il est tard et Maria Hernandez, 20 ans, rentre chez elle en voiture. Elle habite dans une petite maison en colocation avec une amie à Rosemead, en banlieue. Elle ne se rend pas compte qu'une voiture la suit discrètement par derrière. Elle arrive chez elle, elle rentre directement sa voiture dans le garage, elle coupe le contact, sort de la voiture. Tout d'un coup, elle entend un bruit derrière elle. Elle aperçoit une ombre, puis un homme habillé tout en noir qui, sans un mot, avec un sourire sarcastique, lève son arme, la vise et lui tire dessus. Maria s'écroule sur le sol, mais elle n'est pas morte. Elle ne bouge pas et fait semblant. Elle a eu une chance inouïe. La balle a heurté le trousseau de clés qu'elle tenait à la main. C'est un miracle qu'elle soit en vie. Mais soudain, elle entend un nouveau coup de feu. Cela provient de l'intérieur de la maison. Marie imagine que l'homme a dû tirer sur sa colocataire, Dale Okazaki. Son cœur ne fait qu'un bond. Marie court et se cache derrière sa voiture. Il est à 1 mètre d'elle. Il s'arrête, il la voit, se tourne vers elle, surpris. Il la croyait morte. Il lève son arme lentement, il fait mine de tirer. Maria ferme les yeux pendant une seconde, elle les rouvre, il avait disparu. Maria se précipite dans son appartement pour alerter les autorités et tombe nez à nez avec le corps de sa colocataire qui gisait dans une mare de sang, abattu par une balle dans la tête tirée à bout portant. C'est le détective Gilles Cario qui débarque quelques temps après. Il constate la scène de crime. Maria est sous le choc. Le détective ne perd pas de temps et l'interroge. Maria dit qu'elle a vu le tueur et le décrit parfaitement. Il a le visage maigre, les dents pourries, habillé tout en noir et sur la tête il avait une casquette avec l'effigie du groupe de rock AC/DC. Il n'a rien dit, il n'a rien demandé. C'était un acte de violence gratuit. Le détective Gilles Cario ne sait pas encore qu'au même moment, son collègue Frank Salerno arrive lui sur une autre scène de crime. Une femme abattue dans sa voiture à Monterey Park par un homme en noir qui l'aurait obligé à s'arrêter et à charger son arme sur elle. D'après un témoin, il portait une casquette à l'effigie du groupe AC/DC. Le même homme a priori, et ce n'est que le début d'un massacre qui va durer plusieurs mois. 10 jours plus tard, le 27 mars, un homme se faufile dans une maison de West Hills, toujours dans la banlieue de Los Angeles. un homme en noir pénètre chez un couple, Vincent et Maxime Zazara. Sans leur laisser le temps de réagir, il abat froidement Vincent d'une balle dans la tête avant de violer Maxime, de la poignarder au visage, au cœur et à l'abdomen. Puis, il lui ôte les yeux qu'il emporte avec lui. Un mois plus tard, ce sera un autre couple, Harold et Jean-Wou, sexagénaires tous deux, qui feront les frais du traqueur de nuit. Suivant toujours le même mode opératoire, il va tuer d'abord l'homme d'une balle dans la tête, avant de frapper la femme handicapée et de la torturer afin de savoir où était rangé l'argent du couple. Cette dernière lui affirme qu'il n'y avait rien. Mais Ramirez n'en fait qu'à sa tête et fouille la maison de fond en comble avant de revenir violer Jean, par frustration. Il la laissa affalée sur le corps de son mari mort, sans aucune pitié, sans aucun tact. Le lendemain, les policiers prennent en compte le témoignage de Jean Wu, traumatisé. Et encore une fois, ils ne purent tirer que certains éléments sur le physique du tueur, éléments que les autorités locales connaissent déjà. Une chose est sûre tout de même, c'est le même homme qui a commis tous ces meurtres. À partir de ce moment-là, on diffuse le portrait robot du tueur en série dans les médias et on patrouille non-stop dans la ville. Mais rien n'y fait, les meurtres continuent avec une régularité sans faille. Deux semaines plus tard, le 29 mai, l'homme en noir retourne à Monterey Park. Il entre dans une maison dont il trouve la porte ouverte et il s'en prend à deux sœurs octogénaires. Là, il monte dans le degré de la cruauté. Les corps de Malvia Keller et de Blanche Wolf sont découverts le 2 juin 1985, complètement mutilés et dessinent au rouge à lèvres sur les murs des pentagrammes inversés, symbole du culte satanique. Un disciple de Satan ? Le shérif du comté de Los Angeles, Sherman Block, s'intéresse spécialement à une des chansons du groupe de métal AC/DC, Nightcrawler, le rôdeur de la nuit, qui décrivait bizarrement le mode opératoire dont se sert le serial killer de Los Angeles. D'ailleurs, désormais, dans les médias, on l'appelle le traqueur de nuit. Les semaines passent et les crimes augmentent. Toute la région de Los Angeles est dans la panique. Le traqueur de nuit frappe au hasard. Il n'a aucune préférence. Homme, femme, vieux, jeune, blanc, noir, peu importe. Ce qui l'intéresse, c'est tuer. Les meurtres sont effectués dans un périmètre de 60 km autour de Los Angeles et possédant le même mode opératoire. Ceci étant les seuls indices tangibles sur lesquels la police s'appuie. On crée une force spéciale chargée de traquer le tueur en série. Les policiers sont sur le qui-vive, mais sont dépassés. Ils n'ont aucun indice pour pouvoir mettre la main sur le tueur. On diffuse un portrait robot et on sollicite les habitants de Los Angeles pour aider les autorités locales. On commence à effectuer des rondes dans leur voisinage de façon spontanée. On monte la garde dans tous les quartiers de Los Angeles, déterminés à mettre ce traqueur hors d'état de nuire. Ayant vu que l'étau se resserrait sur lui dans la ville de Los Angeles, le traqueur de nuit change de territoire. C'est ainsi que dans la nuit du 17 août 1985, un couple d'origine chinoise, Peter et Alberta Pan, sont retrouvés morts à San Francisco. L'homme est exécuté d'une balle dans la tête et la femme a été torturée. Des pentagrammes sataniques sont dessinés sur les corps ainsi que sur les murs de l'habitation. Les policiers de San Francisco constatent très vite que ce mode opératoire n'est pas nouveau. Il a beaucoup de similitudes avec celui du traqueur de nuit qui sévissait à Los Angeles. On ne tarde pas à comprendre qu'il s'est déplacé chez eux. Une nouvelle chasse à l'homme se met en place à San Francisco. Les autorités locales bénéficiant des avancées de l'enquête effectuée à Los Angeles. Ils n'ont pas l'intention de le laisser sévir à sa guise. Cet adorateur de Satan doit être mis hors d'état de nuire. On met les habitants au courant, le portrait robot diffusé et des consignes de sécurité données. Les patrouilles de police furent doublées la nuit, principalement dans les quartiers hispaniques, et tous reçurent comme consigne de surveiller des Pontiacs marrons et des hommes vêtus de noir. Sentant qu'il était poursuivi, le traqueur de nuit abandonne sa voiture et vole une Toyota orange, qui, loin d'être discrète, ne fit qu'attirer encore plus l'attention sur lui. Le 24 août, dans la banlieue sud de Los Angeles, dans une petite ville, il entre dans une maison au hasard. Il abat l'homme d'une balle dans la tête, viole la femme et décide de la laisser vivre. En sortant, il n'a pas fait attention, mais un jeune garçon de 15 ans qui était là en train de réparer sa mobylette l'a vu. et a eu la perspicacité de noter le numéro d'immatriculation de la Toyota. Le garçon court de suite prévenir la police car il l'a reconnu. C'est l'homme du portrait robot. La police s'attelle à retrouver la Toyota orange et son propriétaire. Ils ne doivent pas rater cette occasion. 3 jours plus tard, ils la retrouvent à Los Angeles, abandonnée. Après avoir fouillé le véhicule, les officiers prélèvent une empreinte digitale. Elle appartient à un certain Ricardo Ramirez, 25 ans. Un jeune délinquant qui a un casier rempli de délits mineurs. Les policiers donnent le nom et la photographie du traqueur de nuit à tous les médias. Et on le traque justement dans tout le pays. Il faut qu'on le retrouve avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Les habitants le prennent en chasse eux-mêmes. Ils l'interceptent sortant d'un bar. Il passe à 2 doigts d'être lynché. La police le sauve à la dernière minute. On arrête enfin le traqueur de nuit qui a terrorisé la Californie pendant 5 mois. Le soulagement est général. Il est enfin derrière les barreaux. La population attend une sentence maximale. Le 20 septembre 1989, Richard Ramirez est reconnu coupable pour 13 meurtres, 30 tentatives de meurtre, viol et agression sexuelle. Il est condamné à la peine de mort et envoyé dans le couloir de la mort de la prison d'État de Saint-Quentin en attente de son exécution. Qu'est-ce qui a bien pu pousser le traqueur de nuit vers cette sombre destinée qui a fait de lui l'un des tueurs en série les plus féroces que l'histoire ait connu? Ce dont il a été témoin dans son enfance, suffit-il à tout expliquer ou bien était-il un tueur né? Tout ce qu'on peut dire est que c'est une mauvaise graine. Peu importe son éducation. Il a dérivé avec une grande consommation de drogue et d'alcool, cela a créé nécessairement des problèmes mentaux. En octobre 1996, il épouse l'une de ses nombreuses fans avec qui il correspondait depuis 1987, Doreen Lioy, une éditrice. Elle dit qu'elle est tombée amoureuse de Ricardo Ramirez car elle le trouve gentil, charmant et attentionné. En l'an 2000, voyant que ses possibilités d'appel diminuaient les unes après les autres et que son exécution approchait, il décide d'affirmer qu'il était fou et donc non responsable de ses actes. Il espère que sa sentence serait annulée, mais ça n'a pas été le cas. Richard Ramirez est emprisonné dans le couloir de la mort du pénitencier de San Quentin. Il fait appel de nombreuses fois pour éviter d'être exécuté. Il s'accroche à la vie, alors qu'il prétend ne pas craindre la mort car il veut rejoindre Satan, son maître. Il meurt le 7 juin 2013 d'un cancer du sang doublé d'une hépatite C après avoir passé 23 ans dans le couloir de la mort. Il n'a jamais manifesté des remords ou des regrets quelconques vis-à-vis de ses nombreuses victimes. Richard Ramirez avait vraiment vendu son âme au diable. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.